Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Jeanne.
Making Waves.
Sonneur Maujat, Avignon.
Présente.
À la jeunesse,
les micros.
Au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Les micros volettes, l'Ichevet.
Loin de vous, les nuits ne dorment plus. Al-Bu'du 'allamani as-sahr. Ce sont les mots de Ahmed Rami, poète égyptien, connu pour les célèbres chansons qu'il a écrites à Umm Kalthoum et Mohamed Abdel Wahab. Et c'est aussi le titre de notre 8e émission à la Jeunesse les micros. Et nous sommes en direct du Festival d'Avignon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Quand je suis seule, dans le silence et la paix, souvent, je songe au village où je suis née. À cette heure, que font ceux que j'ai laissés là-bas? Je me suis égarée malgré moi sur le chemin de la vie. Mais mon cœur est resté accroché au roc de ma vallée. Ce sont les vers de la poétesse Mrereda. Je les ai lus hier en préparant l'émission et je me suis retrouvée dans ces poésies. Moi, quand je suis seule dans le froid harassant de la Belgique, je pense à Casablanca. Je pense au plat chaud que ma mère prépare le matin, à la chaleur qui envahit la maison, à l'odeur de la menthe et à la voix de mon père qui me réveillait et qui s'est transformée en sonnerie insupportable de mon téléphone. Vous l'avez probablement compris, aujourd'hui on va parler éloignement, de ce qui sépare les êtres et de comment on se rapproche malgré la distance. Je suis Kautar, et ce soir, au plateau, je suis accompagnée de Léa, Martin, Clément et Joyce. Bienvenue à vous, et bien sûr, on n'oublie pas les génies de la régie, Noan et Niléance. Je vais profiter du fait que je suis animatrice aujourd'hui pour dire à ma maman et mon papa qui m'écoutent du Maroc, vous me manquez beaucoup. Et vous les amis, ça fait bientôt 3 semaines qu'on a quitté nos proches. De qui vous vous sentez loin et est-ce que vous voulez leur dire quelque chose?
Personnellement, comme j'ai toujours grandi à Avignon, je me sens pas éloignée de ma maison. Mais par contre, ça fait bientôt 4 ans que j'ai plus vu mon papa. Donc j'aimerais profiter de cette émission aussi pour lui dire, si tu écoutes, que tu me manques énormément.
Moi, ma famille, je vous aime à grand cœur. Mais ce message s'adresse tout particulièrement à mon papy. J'espère que tu entends tout. D'ailleurs, il y a des radios au-dessus des nuages ou pas? Je suis pas sûr. Tu comprends sûrement pas grand-chose, mais j'espère que tu es fier de moi de là-haut. Je t'aime, papy.
Bah écoute, Kautar, moi ça va. Je suis bien ici avec vous.
Ah, oh, merci Clément.
Moi, Mimi et Lucie, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus. Si tu as l'occasion d'entendre l'émission, je veux te dire, moi, Réméo, et tu me manques.
Vous êtes adorables, les amis. J'espère qu'on pourrait se retrouver très vite avec nos familles. L'éloignement, ça touche tout le monde avec différentes manières. On a tous quelqu'un ou quelque chose qui est loin de nous, mais qu'on garde très proche de nos cœurs.
À la jeunesse ! À la jeunesse !
Les migrants.
On est avec Amal Ayouch et Sana Asif, comédiennes marocaines qui présentent la pièce Harem, inspiré des dires, pensées et analyses sociologiques de Fatema Mernissi. Bienvenue à vous.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
Bonjour Amal Ayouch, vous êtes une figure du théâtre et du cinéma marocain. Vous avez joué dans de nombreux films tels que Le Destin des Femmes, Ali Zaoua. Vous êtes une femme de lettres et de convictions et vous donnez la parole aux invisibles dans vos créations. Vous allez bien?
Très bien, très bien. Contente d'être là. Et puis j'en profite pour l'éloignement de faire un petit clin d'œil à ma petite fille qui s'appelle Keltoum. Et j'espère qu'un jour, elle est petite maintenant, mais peut-être dans 20 ans ou dans 10 ans, quand elle écoutera cette émission, elle saura que Mamaya pense très très fort à elle.
Oh.
Sana Asif, vous êtes comédienne marocaine. Vous avez étudié les arts dramatiques au Conservatoire de Casablanca et vous avez cofondé le collectif 19h Théâtre. On est ravis de vous rencontrer. Comment est-ce que vous allez?
Je vais très bien dans cette ambiance extraordinaire d'Avignon.
On est là, on se rend compte parce que justement, c'est le théâtre qui nous rassemble. Et c'est surtout pour raconter les histoires de femmes et d'hommes qui ont marqué nos parcours et qui ont marqué notre histoire. Donc, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Amal, Sana, est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment d'éloignement, peut-être Amal, avec votre petite fille ?
Le sentiment par la perte aussi, puisque, comme l'a évoqué Martin, par la perte d'un être proche. Mais paradoxalement, c'est drôle, quand il y a la perte, il y a aussi le rapprochement autrement. On essaie de se rapprocher autrement. Et puis après, l'éloignement par la pensée déjà, tout simplement. Même dans le pays où on vit, on peut vivre avec une personne dans la même maison, mais ne pas partager les mêmes idées et se sentir loin les uns des autres.
Et Sana, votre expérience ?
Oui, alors moi je suis résidente marocaine en France. Donc j'habite à Paris, mais je n'ai pas arrêté de nouer des liens entre le Maroc et la France. Parce que c'est là où je me retrouve. Je ne me retrouve ni au Maroc complètement, ni en France complètement. Je sens comment ma place est entre les deux. Et donc je n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est ce qu'on appelle l'immigration circulaire. Mais finalement, cet éloignement et de l'un et de l'autre me rapproche énormément et de l'un et de l'autre. Le fait de partir... On construit d'autres idées, une autre vision des choses.
Toutes les deux, vous jouez actuellement dans le spectacle Harem, qui est mis en scène par Anne-Laure Léjoie. Et ce spectacle a daté des textes de la sociologue Fatema Mernissi, écrivaine et féministe marocaine. Vous pouvez nous dire qui est Fatema Mernissi ?
Elle est sociologue. Elle se définit d'abord comme sociologue, une des plus grandes sociologues du Maroc contemporain et du monde arabe islamique. Donc, bien sûr, elle a écrit beaucoup d'essais. Et essentiellement, seulement un seul roman qui s'appelle Rêve de femme, qui est un de ces romans qui l'a fait connaître, puisqu'elle touche un public beaucoup plus large, et qui a été traduit en 26 langues, et qui a été d'une manière intelligente une façon de faire véhiculer sa pensée, qui est quand même un peu complexe, qu'on peut retrouver à travers différents essais, mais qu'elle a écrit d'ailleurs assez tard, elle avait plus de 50 ans, quand elle a compris que pour toucher un public plus large, il fallait donner une parole plus simple. Et puis le roman, puisqu'on amène les gens dans un imaginaire, un univers, est une belle façon d'entrer en matière. Alors que par ce roman est traversé par toutes ces pensées éminemment importantes qu'elle a développées dans plusieurs de ses essais. Donc c'est voilà, une femme qui est née à Fès en 1940, qui a eu un parcours assez extraordinaire, puisqu'elle n'a quitté sa ville qu'à l'âge du bac. Elle a étudié à l'université de Rabat, puis elle a été à la Sorbonne, avant d'aller faire un PhD aux États-Unis. Et ce qui est quand même important, c'est qu'elle a tenu à retourner dans son pays, alors qu'on lui offrait une carrière extraordinaire aux États-Unis. Elle a tenu à retourner dans son pays pour rester proche de ce public qu'elle visait et de cette matière, si on peut parler comme ça, des gens de qui elle parlait. Elle aimait être proche de ces femmes, de ces jeunes dont elle parlait. Ce n'est pas une parole imaginaire, mais c'est une parole de proximité, puisqu'elle allait vers ces gens tous les jours. Elle discutait avec le marchand au marché, à l'épicerie. Elle était très à l'écoute de ce qui se passait au quotidien et qui était le terreau sur lequel elle travaillait.
Et Fatema Mernissi a aussi une vie dédiée aux femmes dans le monde arabe et le monde musulman. Et pas que, parce qu'elle a écrit aussi un essai qui s'appelle « Le harem occidental » et où elle décrit les modes d'enfermement des femmes dans les sociétés occidentales. C'est clairement une parole universelle. Et on a vécu ça en préparation à notre spectacle, parce que lorsqu'on a proposé, Amal et moi, à Anne-Laure Liégeois de travailler avec nous sur les textes de cette femme savante du Maroc contemporain, au début, elle nous a dit « Ok, je vais vous accompagner, mais c'est votre histoire ». Donc, vous choisissez les textes qui vous ont le plus impacté. Et je vais travailler avec vous sur la dramaturgie, sur la mise en scène.
Justement, c'était assez intéressant parce que nous, on ne la connaissait pas du tout en préparant cette émission, ce qui est assez remarquable. Enfin, moi, elle m'a hyper impressionnée, cette dame. et c'était vraiment incroyable d'apprendre un peu à la connaître. Enfin, de faire des recherches sur elle. Et en faisant des recherches sur elle, je suis tombée sur une interview d'elle qui parle justement d'une anecdote dont vous parlez dans votre spectacle. Donc on aimerait vous la faire écouter, un extrait d'une interview de Fatema Mernissi qui nous raconte les différences justement d'enfermement des femmes entre les pays du Maghreb et l'Occident. Elle raconte qu'en voulant acheter une jupe à New York, la vendeuse lui a fait comprendre que ses hanches étaient trop larges.
The revelation is I always had big hips. And in my Fez Medina, when I'm walking, They're always, oh, wonderful, wonderful. Now, I always kept in my mind that it's very sexy to have a big hips. And here I am, where she tells me it's 36. I was just struck me then that the worst harem is if you could tell me that I should have size 36, which means that you never grow to become a mature woman. You have to be small. And then I realized that the harem of the clever Westerners is to block women in time harem, not in space. And this is more pernicious because the women cannot fight it, because you are telling them, if you want to be beautiful, you have to stay young.
Justement, on voulait rebondir sur ça. On veut savoir votre avis, par exemple, cette anecdote que Fatema Melnessi raconte. Moi aussi, je suis marocaine et on a souvent cette idée que l'Occident, les femmes de l'Occident, sont tellement plus libérées. Pourtant, on est tous, comme vous le dites, conditionnés au patriarcat, au sexisme, à la misogynie. Comment vous voyez ça ?
Fatema Melnessi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que cette idée du harem occidental, elle a toujours dit que, au contraire du musulman qui construit son oppression dans l'espace, pour elle, l'homme occidental manipule les femmes dans le temps et la lumière. Le temps, c'est la jeunesse éternelle, le fait d'avoir une peau tirée, le maquillage et les caractéristiques de ce que c'est qu'une belle femme ou une femme qui n'est pas belle. Et dans l'image, et là elle parle bien évidemment de l'image actuelle, les images qu'on véhicule dans les publicités, dans les films hollywoodiens, mais aussi les images des peintres orientalistes. Et donc, ça remonte à très loin. Elle dit que, par exemple, les peintres orientalistes qui ont enfermé la femme musulmane, la femme qui est dans le harem, dans cet idéal de la débauche heureuse, que ces femmes étaient complètement heureuses d'être enfermées et d'être propriété d'un seul homme, et de considérer que c'est un lieu où on est heureux et où on danse et où on est libre et où on est, où les corps se déhanchent, etc., que pour elle, c'était aussi une façon d'enfermer les femmes arabes à cette époque dans un idéal. Et que les peintres, justement, véhiculent des images et fixent, justement, ces images en peignant ces femmes qui sont enfermées dans le harem. Quand pour elle, le harem est un lieu d'enfermement où tout le monde se sent observé, où les femmes... où il y a de la compétition pour avoir le même mec plus de soir et plus de et pour acquérir un pouvoir, alors qu'en Occident c'était vraiment un lieu heureux, un lieu où il y a des femmes magnifiques. Donc pour elle, il y avait cette différence entre le harem tel qu'il est perçu par l'Occident et le harem tel qu'il est vécu par ces femmes enfermées. Et donc elle se dit, si on peut pas imaginer qu'une femme enfermée est malheureuse et qu'elle se bat tous les jours pour avoir sa liberté, c'est qu'on a un harem dans la tête.
Puis surtout de l'ignorance, quoi. C'est le fait de pas connaître la réalité des choses, de pas connaître la fougue et la ténacité et la personnalité de ces femmes. C'est penser qu'elles sont écervelées, comme elles disent, qu'elles n'ont pas de cervelle et qu'elles sont à disposition de cet homme. Et c'est pas du tout le cas, ça a jamais été le cas. Et aujourd'hui, de toute façon, cette misogynie, elle existe toujours et dans toutes les sociétés. Mais aujourd'hui, quand même, on peut voir que, de toute façon, ces harems n'existent plus. Enfin, quand je dis n'existent plus, les lieux d'enfermement existent toujours, que ce soit en Orient ou en Occident. On est toujours surpris par des histoires qui surgissent et on n'arrive pas à imaginer que c'est possible. Et pourtant, ça continue d'exister. Il y a des lieux, bien sûr, où c'est un peu coutume. Les femmes sortent pas beaucoup. L'espace public est toujours davantage investi au Maroc par les hommes. Quand on va aller, on va trouver des cafés, des terrasses, essentiellement, aujourd'hui dans les grandes villes, les choses changent. Mais dès que vous sortez des grandes villes, il n'y a pas de femmes dans les cafés. Oui. Encore plus sur les terrasses. Les lieux, l'espace public appartient aux hommes. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes professeurs, il y a beaucoup de femmes inscrites dans les universités. Le taux de réussite de la scolarisation est beaucoup plus élevé chez les jeunes filles que chez les garçons. La société bouge beaucoup. Oui. On peut considérer que si Fatema Melnessi était présente aujourd'hui, elle serait très heureuse. Déjà, puis en plus, elles sont aussi dans les médias, donc elles parlent d'elles-mêmes, elles défendent leur cause Avant, c'était les hommes qui devaient parler des femmes. Aujourd'hui, les femmes sont suffisamment matures et voilà, pour défendre leur propre cause, écrire sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, déjà, elle a anticipé ça, Fatema Mernissi. Elle a beaucoup encouragé la création d'associations. Elle a eu un parcours quand même admirable au-delà d'écriture. Elle a été beaucoup sur le terrain. Elle a organisé des caravanes de femmes. Elle a mis en place des associations. Elle n'était pas féministe tout à l'heure. Quand ce que je voulais reprendre, j'ai oublié. Elle n'a pas appartenu à une structure. Elle ne se revendiquait pas comme féministe, mais plutôt comme humaniste. Elle ne faisait pas partie de partis politiques, mais elle était profondément humaniste, parce que toutes les causes l'interpellaient.
Moi, j'ai vu votre spectacle, je savais pas si c'était quoi un harem, mais c'est vrai que j'avais cette pensée que c'était quelque chose d'érotique, enfin, c'était un lieu où il se passait beaucoup, enfin, c'était la débauche, et du
c'était
coup...
C'était très idéalisé, surtout, enfin, comme vous avez dit
c'est ça, tout à l'heure. Comment c'est expliqué dans votre spectacle, et c'est vrai que quand, du coup, la première phrase, c'est « je suis née dans un harem », ben, j'ai dit... Oh. Comment ça ? Enfin...
C'était le but, hein. C'était vraiment... Et vous avez même vu le cheminement, comment les textes ont été mis bout à bout pour petit à petit faire rentrer les gens, leur donner d'abord quelques explications, parce que c'est totalement étranger. Au départ, les personnes qui arrivent se disent « mais de quoi ils parlent ?» C'est ramener le spectateur lui-même à faire son propre cheminement. Et c'est ça qui était important pour nous, et donner à entendre et à partager.
En tout cas, mission réussie.
en fait, ça aussi, on en parle dans le spectacle, c'est que Fatema Mernissi n'a pas cessé de re-questionner les mots. Parce que les mots, pour elle, ont une importance majeure. Quand on manipule les mots, on manipule les gens, en fait. Et le fait de changer le sens d'un mot, de le prendre, de le vider de son sens premier et de lui donner une autre connotation, c'est quand même des manipulations politiques, il faut le dire, qui peuvent manipuler les masses. Et là, elle donne un exemple, d'une femme que tout le monde connaît, qui est de la tradition perse, mais qui était vraiment adoptée, ça fait très longtemps, par la tradition arabe, qui est Scheherazade. Et Scheherazade aussi a fait partie d'un harem de son roi de mari. Et Fatema Mernissi disait que Scheherazade, par ses mots, elle a emmené le roi à guérir de sa haine obsessionnelle des femmes. Ça veut dire qu'elle lui racontait les malheurs d'autrui pour mieux lui parler des siens. Et c'est comme ça, avec ces mots, qu'elle a réussi à le guérir. Et pour elle, Scheherazade était une instigatrice de révolte, parce que justement, elle a arrêté une insoumission clairement à ce sultan qui égorgeait... ces femmes le lendemain des noces, et qui était emprisonnée dans sa haine des femmes, et par ces histoires qu'elle lui racontait, par l'éloignement justement. Ça, c'est un détour. Ça veut dire au lieu qu'il y ait une confrontation, parce qu'elle ne pouvait pas, c'était une question de survie. Et puisque c'est une question de survie, par les mots, par ce détour, par le fait de lui raconter des histoires, et le fait de mettre des mots sur les sentiments, de mettre les mots sur l'emprisonnement, de lui raconter des histoires lointaines. Et là, on parle de l'éloignement. L'éloignement peut aussi être l'occasion de...
faire voyager des idées, des histoires.
Il y a même un mot dont elle parlait. C'était en arabe, on a le mot « brani ». Aller chercher quelque chose souvent... On a besoin d'aller dans un autre territoire pour pouvoir comprendre ce qu'on vit soi-même. Et le barani, vous savez très bien, Darija, ça veut dire l'étranger.
Oui.
Mais le barani, ça a aussi le sens me guérir.
Ah oui, c'est vrai.
Barani, barani. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est en allant vers quelque chose d'étranger à soi-même et en étant confronté à l'étrangeté qu'on peut se guérir de certaines choses. Ce n'est pas en étant tout le temps face à des personnes qui nous ressemblent. Des gens qui restent entre eux ne peuvent pas s'ouvrir sur autre chose. Et justement, cette étrangeté permet de toucher à quelque chose qui, en soi, peut-être a besoin d'être retravaillé pour guérir.
Oui, justement, on va recevoir Imane qui va nous partager son ressenti par rapport à l'éloignement culturel qu'elle a vécu dans son propre pays.
À la jeunesse, c'est les micros.
Les micros.
Thank you.
Je suis là et je ne suis pas là. Tu m'entends, mais tu ne me comprends pas. On parle la même langue, mais pas la même pensée. Qu'est-ce que je dois changer? J'ai été exilée par la mentalité. Mon corps proche des miens, ma tête loin des miens. Être sans être, est-ce que c'est une possibilité? Ne jamais appartenir. Ne jamais appartenir. À une terre, à une mère. Ne jamais appartenir. Même avec une nationalité. Ne jamais appartenir. À cause de mes idées. Et vivre comme si de rien n'était. L'avantage, c'est que je suis partout. Et c'est comme ça que Dieu m'a créé. Entre trois mondes complètement à l'opposé. Au Maroc, une Française par la pensée. Une Arabe désintégrée. En France, une Arabe, mais seulement sur papier. En voyage, j'ai acquis l'internationalité. C'est l'éducation qui m'a exilée. Et pendant 10 ans, je n'ai pas pu parler. Par besoin de me décoloniser. Et pendant 10 ans, je n'ai pas pu parler. Pour me reconnecter. Être caméléon, pour être partout à la fois, ça a été une porte qui s'est ouverte et rien qu'à moi. Mais c'est aussi le prix à payer pour vivre en paix. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تخلطت وعشت بين بيبان وأحلى. هدية جت بطريقة غير متوقعة. قوة وكلفة وعيشة وموتة. Cadeau venu des cieux pour montrer que, quelle que soit ta nationalité, tu peux faire communauté. Mais laisse les séparer, parce qu'aucun masque ne doit tomber pour réussir un tableau coloré.
Merci Iman pour ce témoignage.
Amal, qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage que nous a fait notre chère amie Iman?
C'est très touchant. C'est très touchant et je me retrouve aussi. Exilé dans son propre pays, parfois un peu trop colonisé par la langue, qui nous a colonisé pas seulement par la langue, mais par la pensée, parce que elle est venue, cette langue aussi, nous éloigner d'une autre langue et d'une autre culture. On peut dire que c'est, voilà, c'est le butin de guerre, mais la langue. Mais c'est aussi, aujourd'hui, je suis très contente aussi de m'être réappropriée par choix volontaire et conscient, ma propre langue et par là même ma propre culture.
Et vous, Sana?
On passe tous par des moments où clairement on ne se sent pas chez soi, quel que soit l'endroit où on vit. Et Fatema Mernissi en parle aussi, hein, elle dit comment vivre avec la communauté mais en ayant un rythme intérieur, comment danser avec le groupe mais en ayant ses propres mouvements. Et c'est ça le challenge, surtout quand on vit dans une communauté où les idées sont fortes et où les rituels sont forts et où il y a des médias qui nous dictent comment il faut penser et comment s'intéresser aux choses et qu'est-ce qu'on doit. Et là, il faut se faire son propre chemin. Et on se sent tous, à un certain moment, exilés, justement. Par les idées, ou par un groupe, ou par... Mais toute la vie, on va toute la vie chercher sa place, chercher sa place et chercher sa participation aussi. Quelle place j'ai et comment participer à changer les choses? Parce que les choses ne vont jamais changer d'elles-mêmes. Donc, voilà, on se retrouve devant une communauté qui est forte, mais maintenant, comment changer, justement, comment participer au changement? Et je crois que c'est cette participation au changement qui nous aide à être forts. Le fait de subir uniquement et de se dire c'est comme ça, ça ne marche pas. On peut pas. Il faut trouver sa place et la place on la trouve avec l'action, d'ailleurs, avec sa participation au monde.
D'ailleurs, vous dites que vous vivez à Paris. Comment vous gardez en fait cette connexion entre cette connexion culturelle avec le Maroc tout en vivant en France?
Je fais ce que je sais faire. Ça veut dire que je suis comédienne et je fais du théâtre. Donc, j'initie aussi des projets au Maroc. Ce spectacle Fatema Melnissi Harem est un spectacle que moi et Emel avons initié parce qu'on voulait travailler sur les textes de cette grande Fatema Melnissi. Et quand on a travaillé sur le spectacle, c'était d'abord pour le Maroc et pour les Marocains. On a invité Anne-Laure Liégeois à se joindre à cette aventure et c'était formidable. C'est parce qu'on croyait vraiment que c'était la femme qu'il fallait pour accompagner ce projet. Mais c'était d'abord, c'était produit au Maroc avec les institutions marocaines et c'était destiné à des Marocains. Et après, c'est toujours dans le voyage. Ça veut dire que je suis en France, Emel est à Casablanca. On invite Anne-Laure, on voyage toutes les deux au Maroc. D'abord, les textes, on a commencé à les lire, on était en confinement. Ça veut dire que c'était notre premier Zoom on essayait le Zoom pour la première fois pour justement lire ces textes ensemble et les explorer ensemble, etc. Et on a vécu cet enfermement. Et puis, quand le confinement était fini, on a voyagé au Maroc, moi et Anne-Laure. On a rencontré là-bas toute l'équipe, etc. On a fait une résidence. On a eu la Covid en équipe. On est parti, on est revenu. Et quand le spectacle, bien sûr, on a présenté l'avant-première, les premières dates au Maroc. Et là, Anne-Laure a dit, je crois que c'est une parole qui devrait être entendue en France aussi. Donc, on vient en France aussi pour donner cette parole. Et c'est en fait, et en France, on a joué des représentations tout publiques, mais on a joué aussi dans des lycées, on a joué dans des collèges, on a joué dans des théâtres. Et à chaque fois, on avait les mêmes retours. C'est que c'est important aussi d'écouter d'autres visions du monde. Parce que justement, ça nous fait comprendre d'abord ce qu'on vit, et ça nous donne le choix aussi. Parce que quand on a plusieurs visions du monde, on peut après se faire sa propre vision, qui est peut-être un patchwork de toutes ces visions, qui est peut-être une vision qu'on a choisie. Mais en tout cas, ça nous ouvre vers autre chose pour avoir le choix, pour ne pas suivre la communauté justement aveuglément.
D'ailleurs, on peut retrouver la pièce à Rem tous les jours à 15h au Théâtre de la Passerelle. Merci.
Transversale. Transversale, 15h30.
Excusez-moi. 15h30 ?
Oui, 15h30, Théâtre Transversale. Venez écouter la pensée éminemment éclairée, intelligente, importante de Fatema Melnissi, avec même des mots d'arabe.
Avec
les mots d'amour, on vous dira les mots d'amour en arabe.
60 mots d'amour.
El mahabba, el alaqa, el hawa, sabwa.
الصبابة
شرف
المقة
الوجد
الولى
الكلف التتيم
التعبد
العشق الجواد دنف شجو شوق مرحبا بكم
استكانة.
ولا
ميرسي بوكو امل ميرسي سناء cet échange. On passe maintenant à ce qui nous rapproche le plus, la musique.
En 1956, la famille de ma mère a quitté l'Algérie et mon oncle, qui avait 7 ans, pour ne pas quitter son pays, est allé se cacher dans un arbre. Et ma grand-mère l'a cherché toute la journée pour essayer de le retrouver. Et je lui dédie cette chanson quelques années plus tard. De tout temps, des peuples ont dû s'exiler et quitter leurs terres. Parmi eux, des enfants. Tu sais, il faut partir, les chevaux sont attelés. Même tante Assina a fermé ses valises. Dans la chambre, ton père cheville les volets et s'invente déjà une terre promise. Il n'est plus de fauteuil, il n'est plus de rouet. La cuisine est sans voix, les armoires sont vides. On n'attend plus que toi, rassemble tes jouets et sèche sur ta joue cette larme livide. Viens, mon enfant, faut pas rester ici. Dans la nuit qui se marbre, accroché à ton arbre, vois sur l'étang La lune s'éclaircit. Il est temps, c'est plus sage, de faire tes bagages. Allez, ne pleure plus, descends de tes confins. Un bateau nous attend, plus grand que l'espérance. Tu verras l'océan, c'est si vaste à la fin que même les oiseaux en oublient leur enfance. Là-bas, tu te feras des amis en cortège, même qu'ils t'offriront des bonbons et des billes. Et quand viendra l'hiver, tu toucheras la neige. Paraît que c'est plus blanc qu'une glace vanille. Viens, mon enfant, faut pas rester ici. Dans la nuit qui se marbre, accroché à ton arbre, vois sur l'étang. La lune s'éclaircit. Il est temps, c'est plus sage, de faire tes bagages. Tu reviendras, promis, la revoir ta maison, même que t'auras fait 100 fois le tour du monde. Elle aura vaincu la danse des saisons et sera plus jolie qu'une île vagabonde. Tu seras chevalier, corsaire ou chercheur d'or, montreur d'ours, acrobate ou pêcheur sidéral, et revenant les mains débordant de trésors, tu la recouvriras de guirlandes et d'étoiles. Cette chanson, elle est aussi pour tous les enfants exilés, maintenant. Mais viens, mon enfant, faut pas rester ici. Dans la nuit qui se marbre, accroché à ton arbre, vois sur l'étang. La lune s'éclaircit. Il est temps, c'est plus sage, de faire tes bagages. Voilà, la cloche sonne, c'est l'heure du départ. Je t'en prie, mon enfant, viens, donne-moi la main. Même les chevaliers un matin se séparent et prennent courageux le caillou des chemins. C'est ça, mon tout petit, emporte cette branche. Elle sent le désert, la montagne et la mire. Et quand, sous d'autres cieux, tes nuits seront blanches, tu la respireras pour mieux t'endormir.
Merci beaucoup, Noël, pour cette belle chanson. Noël, vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, comédienne au théâtre, au cinéma. Vous savez même faire des claquettes. Vous êtes une résistante dans l'âme. Vous avez chanté en hommage à la Commune de Paris en a cappella devant des centaines de personnes, ce qui demande énormément de courage.
Des centaines de milliers.
Des centaines de milliers, mon Dieu. Et aujourd'hui, vous venez au plateau d'À la Jeunesse des micros pour chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Dites-moi, quand on parle d'éloignement ou d'exil, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous... Vous avez une histoire, une anecdote personnelle?
Alors, à titre personnel et très concrète, ça fait 3 semaines que je suis à Avignon pour le festival et que je suis loin de mes enfants, donc en termes d'éloignement, je... voilà. Et puis l'exil de ma famille maternelle et de même de ma famille paternelle de Pologne. Donc je suis une enfant de parents exilés des deux côtés.
Enchantée. Et je voulais vous poser une dernière question. Je vois que vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, vous faites du théâtre, vous faites de la danse. C'est laquelle de ces pratiques que vous préférez le plus faire?
De chanter et d'écrire. Chanter et écrire, ouais.
Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, je joue à Avignon. Je fais ma pub.
Mais
hein.
Oui, mais oui, on peut vous retrouver avec votre spectacle Incarné, donc, oui, au théâtre de l'Arrache-Cœur tous les jours à 13h10.
À 13h10, oui, au théâtre de l'Arrache-Cœur.
Oui. Merci beaucoup, Noël. Merci.
Merci Iman et Nawel. On est toujours au cloître Saint-Louis et on est maintenant avec Caroline Gillet.
Caroline, vous êtes journaliste et réalisatrice belge. Vous avez réalisé Inside Kaboul.
Inside Kaboul.
Kaboul. J'ai du mal à dire, je ne sais pas pourquoi. Une série de podcasts qui suit le destin de deux femmes afghanes depuis la crise de Kaboul par les talibans en 2021. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Avec
comment
choix.
Est-ce que ça va?
Super, je vais essayer de faire la prochaine saison, ça pourrait être Inside Kaboul. Je sais pas si vous connaissez des gens là-bas, je pourrais aller rencontrer et leur
ça
demander de
sûrement.
Vous voyez des notes vocales.
justement, en parlant d'Inside Kaboul, qu'est-ce qui vous a déclenché cette envie de faire ça en 2021?
C'était l'envie d'essayer de comprendre et d'entendre des femmes qui se retrouvaient dans cette situation. La génération qui a 20 ans, à ce moment-là, en 2021, elle avait entendu les histoires de leurs parents qui racontaient ce que ça avait été le premier régime taliban. Je me disais que ça devait être effroyable de se dire que ça risquait de revenir, et surtout pour les femmes. Et donc j'ai contacté un copain là-bas qui m'a mis en contact avec deux jeunes filles. Je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait de m'envoyer des notes vocales, me parler de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de décrire ce que vous voyez autour de vous, et d'enregistrer aussi des ambiances, les ambiances à l'intérieur de chez vous, ce qui se passe, la télévision, mais aussi peut-être le jour où il y a un checkpoint, un contrôle de talibans qui s'installe en bas des fenêtres, enregistrer ce son-là et me dire ce que ça vous fait, enregistrer le bruit des avions qui survolent Kaboul au début, au moment où il y a eu beaucoup de personnes qui quittaient le territoire, et donc de sentir qu'on reste derrière et que c'est super dur. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elles m'ont envoyé des notes vocales pour me le raconter.
Juste, est-ce que c'était simple de partir? Parce que je suppose qu'il doit y avoir énormément de monde. Mais est-ce que, au-delà du fait qu'il y avait énormément de monde, est-ce que c'était simple de partir d'Afghanistan?
Non, très très compliqué. Très 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 compliqué. Il y en a une des deux qui a réussi à partir assez vite parce que son mari, en fait, c'était beaucoup lié avec si on avait travaillé avec des organisations internationales, c'était un petit peu plus facile, mais malgré tout très très complexe. Et elle a mis un mois à partir via le nord du pays. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était aussi de les entendre toutes les deux, une qui partait, l'autre qui restait, et elles étaient tout le temps en miroir l'une de l'autre. Ouais. Je pensais souvent à elle, je me disais, qu'est-ce que ça doit faire pour l'une de se dire, voilà, j'entends mon ami raconter ce que c'est d'être parti, et inversement pour l'autre. Et donc le poids de ces choix qui n'en sont pas dans des moments de conflit, rester ou partir, les deux de toute façon étaient super douloureux, quoi.
Justement, Caroline, on va écouter le premier message vocal que vous avez reçu de la part de Marwa en août 2021 depuis Kaboul. Elle a 23 ans et les talibans viennent de prendre le pouvoir en Afghanistan. On écoute.
You may hear the sound. It is the Taliban's.
Ce que tu entends là,
cars and motorbikes,
c'est le bruit sound des voitures et des motos, des talibans qui patrouillent dehors.
I'm in the yard.
Je suis dans la cour intérieure.
I'm staring at the sky.
Et je regarde le ciel.
I can see its beauty.
Il est beau.
I can see the lights on the street.
Je vois les lumières de la rue.
I can feel the pleasant air.
Je sens l'air doux sur mon visage.
It seems like everything is okay, but it is not.
On pourrait croire que tout va bien, mais ce n'est pas vrai.
I and my two younger sisters were in bed.
Ce soir-là, moi et mes deux petites sœurs, on était couchés.
Came and told us that the Taliban.
Mon frère est venu nous dire que les talibans avaient pris le contrôle de Jalalabad à Nangarh. C'est un quartier très proche de Kaboul.
And very near to Kabul. My little sister was really afraid.
La petite sœur avait très peur. Elle a commencé à pleurer.
We tried to convince her that the news are
On a essayé de la convaincre
they won't come to
que les nouvelles étaient fausses.
And we are safe. Our people are safe.
Qu'ils ne viendraient pas jusqu'ici, qu'on était en sécurité. Tout le monde est en sécurité.
We couldn't really believe it that something would happen to Kabul.
C'était impensable qu'il arrive quoi que ce soit à Kaboul. On s'attendait à ce qu'elle tienne au moins 3 mois.
We couldn't fall asleep that night.
On n'a pas réussi à dormir cette nuit-là.
The nightmare started.
Le cauchemar a commencé.
Everyone
tout le monde
was afraid.
Avait peur.
After some hours,
après quelques heures, le gouvernement s'est effondré. Le président s'est enfui.
And they came into the city.
Et ils sont entrés dans la ville.
Everyone was crying.
Tout le monde pleurait.
On that day, we lost everything.
Ce jour-là, on a tout perdu.
We just sat to watch what would happen to us.
On est juste resté là, à attendre ce qui allait arriver.
We can't control our life or destiny.
On ne contrôle plus nos vies ni nos destins.
We are living. We breathe.
On est encore en vie.
We eat.
On respire.
We drink.
On mange. On boit.
We sleep.
On dort.
We wake up.
On se réveille.
But nothing is really normal.
Mais plus rien n'est normal.
We don't live.
On ne vit plus.
We are not alive.
On n'est plus vraiment vivant.
This life has no purpose anymore.
Cette vie n'a plus de sens.
We don't know anything.
On ne sait plus rien.
Caroline. du coup, on vient d'écouter un des premiers vocaux, enfin, le premier vocal. Comment ces vocaux ont changé votre pratique journalistique ?
Quand j'ai reçu cette note vocale, j'étais en train de... Je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire, mais j'ai eu l'impression d'être auprès d'elle, sur ce toit terrasse, et de l'avoir juste à côté de moi, en train de parler. Je ne sais pas... Je sais pas pourquoi c'est plus fort peut-être que de la radio que j'aurais pu faire, parce que moi d'habitude je vais sur le terrain, je rencontre les gens sur place. Si ça avait été possible, j'aurais peut-être été à Kaboul, la rencontrer sa famille, aller avec elle sur ce toit terrasse. Mais là c'était pas possible, et puis du coup je recevais cette note vocale. Et en fait peut-être que c'est parce qu'elle se parle un petit peu à elle en envoyant la note vocale. Peut-être que c'est un petit peu comme un journal de bord, un journal intime. En tout cas il y a quelque chose de qui semble extrêmement proche quand elle me parle. Et à ce moment-là je me suis dit c'est incroyable ce qu'on arrive à faire à distance. Et justement on a beau être très éloigné, peut-être que ces notes vocales vont nous permettre de nous sentir plus proches. J'ai envie de continuer tous les jours, en fait, de lui demander si elle est d'accord, évidemment, de m'envoyer des notes vocales et de commencer une relation comme ça, c'était très nouveau pour moi. Et on est devenus très très proches comme ça, juste par la voix, sans se rencontrer pendant tout un temps.
Et maintenant, vous avez réalisé Outside Kaboul. Vous avez pu rencontrer les jeunes femmes que vous avez échangées en vocal. Comment vous avez vécu cette retrouvaille ?
Ça a été beaucoup, beaucoup de larmes, de joie, parce que c'est vrai que ça a été extrêmement difficile pour celles qui étaient restées, notamment d'arriver à sortir du pays. Et donc, on a eu cette chance, ça a marché pour elles. Et je ne pensais pas dans une vie vivre ces moments-là. Moi, je suis très privilégiée, je viens de pas très loin, je viens de Bruxelles, donc c'est 1h15 de train, des éloignements comme ceux-là, des chemins à parcourir comme ceux-là. J'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre ça. Et donc, de partager ce moment-là avec elle, de pouvoir partager cette joie, c'était fou. Et aujourd'hui, du coup, on continue à se voir beaucoup. Et c'est très intéressant parce que j'entendais tout ce qui se disait dans la première partie de l'émission. Et il y a beaucoup de choses qui font écho sur comment est-ce qu'ensuite, une fois qu'on arrive ici, on s'installe, comment on se vit ce mal de pays, comment est-ce qu'on vit aussi ici quand on est différent, comment est-ce que... Encore récemment, elle me disait, mais Caroline, est-ce que tu crois qu'un jour je trouverai ma place ici ? Elle était en pleurs, elle me disait, mais j'ai l'impression que la seule façon de trouver sa place, c'est si je suis bourrée aux as. Et dans ce cas-là, on me respecterait. Mais entre-temps, je sens quand même toujours ce regard qui me regarde souvent un peu de haut. C'est une femme voilée et elle sent que c'est dur au quotidien d'être quelqu'un de différent ici.
D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de vocaux et comment ces femmes, vous avez créé une relation très... on peut dire très complice avec ces femmes-là à travers les vocaux. On va recevoir Neil et Anse Noan. Enfin, ils sont déjà à la régie, mais ils vont se dévoiler par une lettre, un médium un peu plus ancien, qui vont parler à leur père à travers une lettre croisée. On les écoute.
À la jeunesse, les micros !
Les micros. Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Salut. J'espère que ça va de ton côté. Que tu ne te casses pas trop le dos. J'étais en train de réfléchir à comment te parler. Avec toi, pas facile de trouver les mots. J'espère me faire comprendre. J'espère me faire entendre.
Mon père, il est né sur une île et il y est resté toute sa vie. Ma mère, elle est née en Normandie. Un jour, elle est allée sur l'île de mon père et c'est devenu une oreille. Métisse de couleur, métisse de culture. Quand on allait chez les grands-parents, Tu te doutes bien, c'était dur. Je vous sentais distant. Les mots, l'ambiance, les gestes dansant. J'étais entouré. J'étais encerclé, cerné par un silence bruyant. Je suis venu, tu es parti. On t'a cherché, tu es parti. On est rentré sur Paris. Tu ne nous as jamais suivis. C'est cool de parler l'arabe, la darija. Mais à moi, papa, pourquoi tu ne la parles pas? Pourquoi me faire venir chez tes parents, chez tes racines, sans que moi aussi je partage la richesse de mes origines? Parfois j'entends du bruit, des mots créoles que je ne sais pas lire, d'une chanson que tu aurais pu me dire, de phrases qu'on ne s'est pas dites. Des fois je parle sans comprendre, j'écoute sans entendre, et au milieu des nuits blanches, je me reconnais dans ton silence. Je ne peux tout te dire. Il faut trouver une fin à mon quatrain. J'ai pris le temps de te le lire. Attends-moi pour qu'on se dise tout demain. Je te connais pas, tu me connais pas. Peut-être qu'un jour, on construira un pont et on se reverra. Poule, hippone, pas canard. J'espère ne jamais devenir comme toi.
Merci Noan, merci Niléance pour cette déclaration. Je te laisse Joyce.
Caroline, en préparant cette émission, vous nous avez dit avoir ressenti une fissure parce que vous ne parlez pas le flamand en Belgique. Comment la langue peut éloigner les gens ?
Oui, c'est vrai que comme j'ai grandi essentiellement à l'étranger, j'ai pas appris le flamand. Et donc, il m'est arrivé, quand je rentrais l'été ou quand je suis rentrée pour faire mes études, de me retrouver en Flandre et de pas parler la langue. Et évidemment, je peux comprendre, comme c'est un pays où il faut pouvoir parler les deux langues. J'adore le bilinguisme, j'adore l'idée de venir d'un pays où il y a plusieurs langues. Mais malheureusement, je pouvais pas. Et ça a pu être des moments un peu tendus. Et c'est vrai que je me suis rendu compte dans ces expériences-là à quel point c'était... On ne pouvait plus comprendre parfois des deux côtés de cette frontière linguistique, notamment parce que dans l'histoire de notre pays, on a choisi de séparer les médias, de séparer les partis politiques. Les politiques ne s'adressent qu'à leur communauté. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a questionnée. Et puis ensuite, que j'ai toujours cherché dans mon travail, à trouver des façons de créer des discussions, des dialogues que j'avais l'impression parfois de ne pas assez entendre chez moi. Et j'avais l'impression surtout que quand on ne se parle pas, évidemment, on ne se comprend pas et que c'est comme ça que la fissure peut grandir. Et c'était surprenant de voir en voyageant dans plein d'endroits où il peut y avoir des conflits ces mêmes ressorts-là, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus qu'à une communauté, on ne se parle plus ensemble et du coup, petit à petit, on s'éloigne.
C'est très triste qu'on peut être proche avec des personnes qui sont très loin de nous, mais très distant face à des gens qui sont à côté. Merci Caroline Gillet de cet échange. On est très ravis de vous avoir ici. On vous retrouve à l'installation Inside Kaboul qui se retrouve en ce moment ici même au sein du cloître Saint-Louis jusqu'à 24 juillet de 13h à 18h30. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Making Waves Avignon présente
à la jeunesse
les micros.
On vous a laissé une petite surprise aujourd'hui. On va accueillir Noah, qui a été ici, dans ce plateau même, pendant 2 ans, à la Jeunesse des Micros. Il a animé, il a présenté aussi la Jeunesse des Micros, qui veut nous partager son ressenti quand il a vécu pour la première fois tout seul à la maison et comment il a vécu la solitude et l'éloignement. À toi.
À la Jeunesse des Micros.
Les micros.
Être loin des siens, de ceux qui nous ont vus grandir, qui nous ont inculqué leurs valeurs, nous ont éduqués du mieux qu'ils ou elles le pouvaient, ça peut parfois être compliqué. Se retrouver séparé de ces personnes qu'on aime est une véritable épreuve, et il est parfois dur de la surmonter, surtout quand on est tout seul. Que ce soit de quelques kilomètres ou de quelques pays d'écart, il est toujours difficile de ne pas se soucier de ce que vivent ces personnes qu'on a laissées. Ça fait maintenant 3 ans que je vis tout seul, dans un appartement vétuste et trop petit pour moi, mais qui, quand j'ai emménagé, était le paradis sur Terre. 16 ans, un appart pour moi, pour de vrai. J'arrivais pas à y croire. Je crois que c'est le rêve de tout ado qui ne se sent plus trop à l'aise chez ses parents, d'ailleurs. Alors on emménage vite. On meuble comme on peut, avec l'ancienne armoire en bois de chêne de papy, la table en fer du bar de maman qui pèse une tonne, des meubles prêtés par l'asso qui m'ont aidé à trouver l'appart, et une vieille gazinière toute rouillée pour la cuisine. Et youpi, me voilà installé. Les premières nuits, premiers repas, premiers ménages sont limite euphoriques. Et même si de base, je suis parti de chez ma mère pour des raisons un peu tristes, l'euphorie de ces moments-là me réconfortait dans l'idée que c'était la bonne décision. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, Après quelques mois, l'euphorie n'était plus au rendez-vous et elle a rapidement place laissée à la... Ouais, quand je vous dis que j'ai perdu la main. Puis elle a rapidement laissé place à la solitude et au stress. Le stress car tiens, d'un coup l'évier est bouché. Subitement bouché. Voilà, je sais plus lire le texte non plus. Et de la moisissure est apparue sur les parois de la douche. Puis il y a cette fuite sous le ballon d'eau chaude et ce petit trou dans le gerflex posé au sol dans lequel je me prends les pieds tous les matins en renversant mon café. C'est moi qui ai fait ça ? J'ai pas fait gaffe et à force j'aurais bousillé mon appart à petit feu. Bah ouais, putain, maman est plus là pour passer derrière moi à chaque fois, faut que je fasse gaffe maintenant, je suis un adulte. Autant vous dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de gerflex dans ma cuisine. Pareil pour le linge, j'ai rien à me mettre, bah faut peut-être que je fasse des machines, non ? Maman me manque ces temps-ci quand même, hein ? Mais bon, ça doit la soulager de ne plus m'avoir sur le dos. Quant à la solitude, même si ma mère est ironiquement à un seul kilomètre de moi... Ils sont ressentis mille de mon côté, car en réalité, ce qui me manque, c'est la chaleur du foyer après le travail, les récits partagés de nos journées et les repas qui partent systématiquement en vrille, parce qu'au fond, avec le temps, même le mauvais vous manque. Puis, en écrivant ces quelques mots, je réalise à quel point la situation que je décris est dérisoire. Quand je pense aux personnes qui cumulent toutes les galères que je viens de citer, sans avoir maman à un kilomètre, mais qui en plus de ça sont séparées de leur famille de manière permanente, et dramatique. Que ce soit parce qu'ils sont malheureusement réfugiés de pays en guerre ou simplement à cause des malheurs de la vie. Alors à défaut de pouvoir imaginer leur douleur, je ne peux que compatir, soutenir et essayer de comprendre, tant bien que mal. Et la morale de l'histoire alors ? Bah, elle n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais je dirais qu'on devrait être content de ce que la vie nous donne. Car ici-bas, le pessimisme est un luxe réservé aux puissants. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, messieurs, dames. Passez une excellente soirée.
Merci Noah d'avoir partagé avec nous ton ressenti. En effet, la solitude est souvent lourde, mais la traversée, c'est aussi ce qui nous aide à grandir.
Les amis, alors nous sommes entre nous, Clément, Léa, Martin, Kaotar. Justement, Noah parlait du fait qu'on a notre premier appartement et que du coup, on est éloigné de nos parents. Pour certains, on ne vit pas encore dans un appartement, mais... Si on devait faire un imaginaire comme Sherazade, comment vous vous sentirez si vos parents, enfin si vous vivez dans votre appartement et vos parents vous manqueraient autant ?
Moi, j'ai vécu pendant 2 ans et demi avec mon ex-fiancée et franchement, j'étais très bien dans mon appart sans mes parents, c'était très cool. Et malheureusement, j'ai dû retourner chez eux, mais voilà, j'ai très hâte que ça se termine.
Toi, t'aimes bien les galères quand tu vis tout seul, en fait.
Ouais.
Bah moi ça fait 3 ans que je suis dans mon appartement à Annecy et je suis un peu comme je me retrouve un peu dans Noah. Au début il y a un peu cette euphorie. Moi j'ai découvert l'aspirateur balai. C'était génial. Je passais que ça de la journée. Je passais. Puis au fur et à mesure du temps, pareil il y a la solitude, les genres de choses. On doit se faire à manger. Au début t'es content, tu fais des pâtes au beurre. T'en manges pas beaucoup à la maison, mais là t'en manges tous les soirs. Au bout d'un moment tous les soirs ça commence à faire compliqué. Donc au début c'est l'euphorie, mais ouais. À la fin, même si j'étais pas très loin des parents, ils étaient à Lyon, le lit, mon lit d'enfance me manquait, ma cuisine, la nourriture de ma mère, tout ça, quoi.
Oh purée, ouais, là, je trouve le truc qui... Donc moi, je vis toujours avec ma mère, mais la chambre dans laquelle j'ai toujours grandi et tout, je pense que c'est l'un des trucs qui va me manquer le plus quand je partirai, parce qu'un jour, il va bien falloir que je parte. C'est pas encore prévu, et je sens que... J'éloigne de plus en plus cette date parce que j'ai pas envie de partir, mais je commence à sentir que ma mère en a marre de moi.
Et toi, Kaotar ?
Bah moi, c'est une expérience totalement différente parce que moi, j'ai dû quitter le Maroc pour vivre en Belgique. Et j'avoue que c'était tout bien, à part l'hiver et le froid, mais le jour où le lavabo s'est bouché et j'étais toute seule et j'ai dû faire le plombier.
Ça, c'était pas sympa. Faire le plombier.
J'adorais quand mon papa faisait ça. Mais... Joyce. Qu'on termine.
Moi, ma mère m'a dit que je pouvais rester jusqu'à mes 26 ans ou même plus tard, du moment que je donne de l'argent pour faire quand même la cotisation. Mais là, par exemple, du coup, ça fait 3 semaines qu'on est à Avignon. Et hier, j'ai voulu bien manger. Donc, je voulais m'acheter une côte de bœuf. Et c'est pas moi, je sais pas choisir la viande. Donc, j'appelle ma mère au supermarché en mode visio. Je lui dis, maman, je prends lequel ? Celui à 15 euros, celui à 17 euros. Elle me dit, celui-là à 15 euros, il a trop de graisse. Donc, prends celui à 17 euros. Et je suis en mode, oh, je suis trop contente. Merci, moi. Et je me rends compte que vraiment dans des petits trucs comme ça, je prends tout un petit prétexte pour toujours garder contact avec ma mère Et je pense que je vais quand même bien le vivre d'être un peu loin de ma mère, mais sur des petites choses comme ça, je pense que c'est bon de rester avec ses parents.
Merci au téléphone, vraiment.
C'est pour ça qu'il y a les vocaux, heureusement.
C'est ça.
Bah, on arrive à la fin de notre émission. On a été tous très heureux d'avoir nos invités et d'échanger. Merci à vous de nous écouter. Merci au génie de la Réa. Merci à Iman, Noah, Niléance, Noah pour son témoignage, Noah pour sa chronique. Et vous, les amis, Martin, Léa, Clément et Joyce. Et ne ratez pas l'émission de demain, même heure, même endroit, au cloître Saint-Louis, pour Le Dent du Vide, Hibatul Farar, où on discutera des mondes virtuels avec Raphaël Arnaud, Julien Rocha, Fanny Caron et Ayoub Kalouchi. Merci. Messieurs et des dames, messieurs et mesdames, à demain.
Ouais, demain.
C'était Making Waves Avignon, à la Jeunesse Les Micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025.
Lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les Micros.